Bonjour, le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été, 1h10, pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine, avec nos invités jusqu'à 13h50. L'Alliance Atlantique est-elle en plein naufrage en Méditerranée? La France s'est retirée cette semaine d'une opération de surveillance maritime de l'OTAN. Façon de désapprouver le silence de l'organisation sur les agissements de la Turquie, notamment en Libye. Nous en parlerons en deuxième partie de l'émission avec la chercheuse Agnès Levallois et l'ancien ambassadeur Marc Pirini. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 13h20. Pour commencer, la nouvelle donne politique après les municipales. Nouvelle donne, c'est peut-être beaucoup dire. Avoir le CV du nouveau Premier ministre dont le nom Jean Castex a été dévoilé hier et qui, mis à part peut-être son accent du Sud, le plus marqué parmi les premiers ministres de la 5e, n'a pas vraiment de quoi bousculer un certain ordre des choses. Énarque, grand commis de l'État, quinquagénaire et issu de la droite dite sociale, les éventuels penchants écologistes de Jean Castex n'ont pas encore été identifiés. On aurait pensé pourtant qu'après la crise sanitaire et après les élections municipales, Emmanuel Macron donnerait des gages aux électeurs des listes vertes, comme si c'était à tout le moins ce qu'il leur devait après avoir eu comme Premier ministre un Édouard Philippe venu de l'industrie nucléaire et qui ne cachait pas être sceptique sur la Convention citoyenne pour le climat. Alors est-ce au niveau municipal que va se jouer le tournant écologiste ou ce qu'on a appelé peut-être un peu trop vite la vague verte? Peut-elle se casser sur le mur de la technostructure? Alors pour cette première partie d'émission, on commence avec vous, Martial Foucault. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur du CEVIPOF. Vous étiez dans le journal de Mathieu Laurent à l'instant. Alors, pour rester d'abord sur la nomination de Jean Castex, est-ce qu'Emmanuel Macron a supprimé le poste de Premier ministre sans le dire?
Oui, c'est une interprétation que l'on pourrait faire. Mais je dirais que, d'une certaine manière, Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle des précédents présidents de la République qui, en cours de mandat, ont dû changer de Premier ministre pour affronter les derniers semestres avant la probabilité d'une réélection. Donc, de cette manière, oui, on peut se dire que Emmanuel Macron souhaite être le grand chef d'orchestre de ces deux dernières années. Mais toutefois, ce qui me semble peut-être nouveau par rapport aux précédents exercices présidentiels, cette fois-ci, on voit bien que la logique qui a conduit à ce remaniement est totalement inédite. Je regardais rapidement la popularité des premiers ministres depuis 1958. Édouard Philippe est l'un des deux premiers ministres les plus populaires au cours de son mandat. Donc se séparer d'un premier ministre populaire, c'est peut-être une bonne raison, parce qu'on considère qu'il peut représenter une menace dans une possible candidature d'Emmanuel Macron. En même temps, la logique qui a conduit à installer hier Jean Castex me semble être à la fois nouvelle dans le sens où qu'est-ce que va apporter de renouvellement, de rafraîchissement, de nouvelles pensées politiques pour ces deux dernières années. Vous avez indiqué qu'il y avait deux enjeux, la question des territoires, la question de l'écologie. Alors attendons le discours de politique générale dont hier le Premier ministre a indiqué qu'il souhaitait ce discours le plus rapide possible, peut-être la semaine prochaine. Et là, on verra véritablement, sur papier, quelles sont les intentions. Mais et je crois que vous avez raison de dire qu'il y avait des sujets. Je crois que le Premier ministre sortant, Édouard Philippe, l'avait indiqué dans un entretien pour Paris-Normandie, qu'il y avait des choses qu'il savait faire et d'autres qu'il ne savait pas faire. Et en fait, quand Édouard Philippe dit il ne sait pas faire, au fond, c'est il ne veut pas faire. Et donc là, on verra si Jean Castex est beaucoup plus docile, n'ayant pas d'aventure politique personnelle, ce qui est différent d'Édouard Philippe.
Édouard Philippe qui aussi, de façon différente, avait refusé qu'on lui impose un directeur de cabinet. Jean Castex, on lui propose un directeur de cabinet qui est un très proche d'Emmanuel Macron, Nicolas Revel. Ça laisse quand même augurer une faible marge de manœuvre, entre autres choses. C'est-à-dire ces commentaires qui disent Jean Castex, ce sera un super chef de cabinet ou un collaborateur du président de la République, jusqu'à Thierry Mandon, l'ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui dit « L'article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, devient l'article 20 VAIN ». Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ?
Bon, laissons quand même Jean Castex s'installer, parce que au fond, on l'a répété, c'est un Premier ministre qui n'a pas d'expérience politique nationale. En tant qu'élu, il a rappelé ses différents mandats locaux. Donc, de toute manière, lorsqu'on devient Premier ministre, on se construit politiquement. Donc Jean Castex peut aussi avoir de l'autonomie politique, et au fil de ces premières semaines, on verra s'il est véritablement ce super chef de cabinet comme certains pourraient le dire dès aujourd'hui, ou bien va-t-il gagner en capital politique pour imposer, j'exagère peut-être, mais en tout cas donner une voix peut-être dissonante à ce qu'a imaginé Emmanuel Macron en nommant Jean Castex.
Alors un énarque certes, grand commis de l'État certes, mais rectifié, élu local comme dit de lui Xavier Bertrand. C'est vrai que c'est un haut fonctionnaire qui a choisi de se faire élire par les urnes. Il s'était présenté au municipal de Prades dans les Pyrénées-Orientales où il a été élu une première fois en 2008 avec un peu plus de 50% des voix. Il a été réélu en 2014 et encore en mars dernier avec 75% des voix. Donc c'est un maire qui connaît l'expérience d'élu de terrain, qui a aimé l'être vraisemblablement, qui a été réélu, qui a obtenu l'assentiment de ses administrés. Est-ce que c'est parce qu'il a été maire qu'une fois nommé Premier ministre, il sera plus sensible aux autres qu'au territoire, à la décentralisation?
Alors ça, c'est une question qui est cruciale, me semble-t-il, si il n'y a pas de dissonance cognitive entre l'intention affichée par le président de la République et la réalisation. Alors, hier, Jean Castex a employé ce terme d'opérationnalité. C'est intéressant parce que c'est pas parce qu'au fond, il est élu local, il a cette connaissance du territoire. Alors oui, il a été élu maire, puis reconduit conseiller départemental, conseiller régional. Donc, il a une vraie expérience des mandats locaux. Édouard Philippe était également maire, alors d'une grande ville, certes. Mais je dirais que...
6 000 habitants, Prades.
6 000 habitants, effectivement. Alors, une petite commune, c'est pas une si petite commune que cela, hein, dans la typologie des
villes,
des strates de population. En revanche, il me semble que il ne suffit pas d'être élu local pour imposer à l'agenda législatif des mesures souhaitées, au fond, comme une réponse à deux crises successives, la crise sociale qui a émergé avec le mouvement des Gilets jaunes, et puis une crise aussi écologique. Donc, je dirais que on jugera en quelque sorte sur pièce l'action de Jean Castex sur un projet qui me semble fondamental, c'est le projet de décentralisation qui a été souhaité par le président de la République. Et en fait, ça fait très longtemps que Emmanuel Macron emploie les termes de décentralisation, déconcentration. Hier, il a été rappelé mot pour mot la même phrase énoncée par Emmanuel Macron lors de sa précédente allocution. Tout ne doit pas se décider de Paris. Bon, très bien, c'est une formule qui est assez engageante, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'on donne plus d'autonomie aux collectivités locales? Ça, c'est de la décentralisation. Ou bien est-ce que l'on veut tout simplement que les services concentrés de l'État soient répartis sur tout le territoire? Ça, c'est de la déconcentration. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas très clairement quelles sont les ambitions de ce gouvernement en termes de décentralisation. Je crois que Emmanuel Macron a eu très très peur de la colère des maires à partir de 2017. Et donc, on a vu qu'il y avait une tentative de rabibochage pour ne pas s'aliéner totalement la population des maires qui, au-delà d'une figure politique, sont aussi des médiateurs sur le terrain. Et on a vu le rôle qu'ils ont pu jouer. Donc, attendons de voir si la décentralisation, le contenu de ce projet de loi de décentralisation est à la hauteur des ambitions, parce qu'on est quand même dans un pays dans lequel la décentralisation reste très jacobine. Elle est conçue à Paris. Et finalement, les marges de manœuvre n'existent pas pour les collectivités locales.
Même le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit récemment il faut en finir avec le centralisme démocratique de Matignon et de citer par exemple les 80 km/h comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas sur la méthode. Jean Castex, lui, était donc l'invité du journal télévisé de TF1 hier soir et il a évoqué l'une de ses missions comme essentielle, réconcilier l'exécutif avec les territoires.
Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Je crois au territoire, je crois à la confiance et aux valeurs de responsabilité. Voilà. Si vous comptez évoquer les questions d'écologie, eh bien, je pense que nous avons une dimension supplémentaire tout à fait exceptionnelle à trouver dans les territoires, à faire progresser l'écologie dans les territoires au plus près des citoyens.
Faire progresser l'écologie dans les territoires, mais quelles sont les marges de manœuvre localement pour les nouveaux maires élus? Pourront-ils, comme certains le voudraient, renverser la table? Bonjour Stéphane Cadieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en liaison depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Là, vous êtes à Lyon, là aussi, un écologiste, Grégory Doucet, a privé Gérard Collomb d'un quatrième mandat. Elle est ambivalente, Stéphane Cadieu, la réponse d'Emmanuel Macron au résultat des élections municipales, avec cette idée d'avoir l'affichage d'un élu proche des préoccupations des Français, mais sans véritable changement à espérer. Est-ce que vous savez comment l'ont accueilli, à votre connaissance, les élus de terrain ?
Mais il y a tout d'abord une contradiction apparente entre le souci d'une équipe gouvernementale, comme toujours lors d'un scrutin intermédiaire où l'équipe en place, l'équipe gouvernementale connaît plutôt des défaites. La tentation, le soir d'une élection, c'est de localiser les leçons qu'on peut tirer d'un scrutin municipal. C'est ce qu'a fait le gouvernement dimanche soir sur les plateaux de télévision. Et en même temps, quelques jours après, on en tire une leçon nationale en changeant de Premier ministre. Mais avec là cette petite subtilité que la leçon nationale qui est tirée va s'appuyer sur un élu qui a une identité localiste. Donc on est dans une forme de contradiction, mais mitigée. Et effectivement, il y a fort à parier que ce choix d'un Premier ministre qui a une identité d'abord localiste, même s'il ne faut pas ignorer son parcours de haut fonctionnaire, cette identité localiste est d'abord à destination des élus locaux. Et c'est d'ailleurs une stratégie qui n'est pas propre à Emmanuel Macron, puisqu'on peut regarder au cours des 10 ou 20 dernières années, plusieurs présidents de la République ont aussi joué cette carte. Quand on pense en 2002, par exemple Jacques Chirac, au lendemain d'une élection présidentielle qui a été quelque peu compliquée en 2002 contre Jean-Marie Le Pen, eh bien il a sorti la carte des territoires, lui aussi, en nommant Jean-Pierre Raffarin. On peut aussi évoquer le cas de François Hollande, qui, au cours de son quinquennat, s'est également tourné vers la carte des territoires. Donc on voit que les élus locaux, se tourner vers les élus locaux, c'est une carte qui est souvent sortie pour essayer d'apaiser, en quelque sorte, les élus, les craintes que l'on peut percevoir dans la population.
Et vous avez l'impression que ça a été bien reçu, des élus locaux avec lesquels vous êtes en contact pour vos travaux ?
Je pense que les élus locaux aujourd'hui sont d'abord et avant tout en attente d'actes, en attente de mesures, mais pas en attente de Big Bang institutionnel. J'ai cru comprendre que les élus locaux sont lassés de ces grandes réformes qui sont annoncées depuis plusieurs années, depuis le début des années 80. Chaque gouvernement tente de faire sa grande réforme. Certains présidents ont même parlé d'un Big Bang institutionnel. Et en fait, ces réformes tendent à s'enliser et à complexifier un peu plus l'architecture institutionnelle. Donc je pense que les élus locaux sont plus en attente de mesures de simplification, de clarification, que de grandes réformes institutionnelles qui, pour toutes celles qui se sont déroulées au cours des 20 dernières années, ont plutôt eu tendance à ajouter un peu plus de confusion qu'à ne clarifier la situation.
Alors on devra faire la distinction quand même dans l'émission entre les grandes villes ou les métropoles qui ont, pour certaines, élu à leur tête des nouvelles équipes municipales écologistes, avec une tendance écologiste, des autres territoires et des plus petites communes où ça ne se passe pas exactement la même chose, où les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes, mais pour autant, quelle que soit l'échelle, ce que je voudrais qu'on essaye d'analyser ensemble, grâce à vous, Martial Foucault et Stéphane Cadieu, c'est de cette marge de manœuvre dont disposent de toute façon les élus locaux, à quelle échelle que ce soit, puisque c'est vers eux que se tourne aujourd'hui Jean Castex. C'est ce qu'il a fait hier pour dire que l'écologie allait progresser dans les territoires au plus près des citoyens. Mais avec quelle marge de manœuvre, avec quels outils? Peut-être Stéphane Cadieu, pour commencer, puisque vous êtes à Lyon, encore une fois, c'est Grégory Doucet qui a été élu, donc Europe Écologie Les Verts, qui s'est fait élire sur un programme de mettre en œuvre la révolution climatique. De quelle marge de manœuvre dispose-t-il, et comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vous voyez les possibilités de se mettre en œuvre ce programme ?
Je dirais que sur Lyon, la situation est un peu plus complexe parce qu'on a un double niveau de collectivité avec une métropole très forte. Mais dans la plupart des communes en France, enfin toutes les communes en France quasiment aujourd'hui ont adhéré à une intercommunalité. Et donc les maires perdu très largement en levier de pouvoir au profit des intercommunalités. Donc l'essentiel des enjeux d'action publique se joue aujourd'hui au niveau de l'intercommunalité, et a fortiori dans la métropole de Lyon, qui est devenue une énorme machine qui gère la plupart des politiques publiques qui ont trait à l'écologie, à l'environnement, que l'on pense à l'habitat, à l'urbanisme, aux mobilités, à la collecte des déchets, etc. Donc je dirais que le maire de Lyon, il est obligé, il est tenu d'entretenir de très bonnes relations. Alors ça tombe bien puisque le président de la métropole de Lyon est de la même couleur politique. Mais donc le véritable enjeu pour un maire aujourd'hui d'une ville, c'est d'entretenir de très très bonnes relations avec l'exécutif intercommunal, puisque c'est là où se situe l'essentiel des moyens en termes de compétences juridiques tout d'abord, mais aussi des moyens financiers. Et des moyens humains, puisque les intercommunalités sont devenues de très grosses machines, de très grosses technostructures qui gèrent les politiques publiques.
Martial Foucault, vous qui êtes le co-auteur de cet ouvrage « Ville de gauche, ville de droite » aux presses de Sciences Po, et puis aussi maire au bord de la crise de nerfs, vous connaissez bien aussi ces questions locales de ces maires qui, finalement, à qui parfois de plus en plus échappent des décisions. Je pense, alors, les leviers de l'action publique locale, il y a les questions qui ont trait à l'écologie, donc l'eau, le transport, les déchets, tout ça se joue à quel niveau aujourd'hui et quel est le levier d'action véritable de ces nouvelles municipalités qui disent aujourd'hui vouloir renverser la table ?
Non, mais Stéphane Cadieux a raison de rappeler le rôle extrêmement complexe qui se joue actuellement entre les municipalités et les intercommunalités. Et mettons pendant un premier instant de côté les grandes métropoles. Mais pour les communes moyennes ou petites communes, il y a une double question à laquelle je pense que Jean Castex va devoir apporter rapidement des réponses. Parce que on peut flatter bon sens du poil l'ensemble des élus en leur disant on a compris vos demandes et on va y répondre. C'en est une autre chose. Sur la question écologique, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les compétences dont disposent les maires pour transformer la ville au quotidien et répondent à des transformations écologiques. Ils ne disposent, dans les petites communes, ils ne disposent pas de ces moyens, que ce soit moyens financiers, voire même moyens juridiques. Donc ils ont besoin de s'appuyer, bien sûr, sur les intercommunalités, dont on sait que ça n'a pas été une période très, très, très rose la concorde n'était pas là lorsqu'il s'est agi depuis 2015 de réorganiser le territoire autour des intercommunalités. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, les maires vont devoir s'appuyer sur ces intercommunalités. N'oublions pas que ce sont des établissements publics qui sont à la disposition des municipalités. Il y a beaucoup plus de pouvoir au niveau de l'intercommunalité, mais peut-être beaucoup moins. Et ça, pour moi, c'est un problème majeur qui s'est de nouveau présenté en 2020. Savons-nous exactement, si nous faisions une enquête auprès des électeurs, savent-ils réellement qu'ils ont élu des conseillers communautaires qui vont siéger dans ces intercommunalités et qui vont transformer leur quotidien ? Moi, je trouve qu'il y a une invisibilité démocratique des intercommunalités qui pose un problème majeur dans ce pays. On peut parler de la qualité de la démocratie municipale, mais si on ne modifie pas et si on ne rend pas plus visible le lien direct entre les citoyens et les intercommunalités, on continuera d'avoir deux formes totalement hybrides, les Français adorant, ayant très confiance dans leur maire, alors qu'ils ont peu de pouvoir, et ne connaissant pas les intercommunités qui, elles, ont un grand pouvoir. Donc ça, pour moi, c'est un problème majeur et qui empêchera, à mon sens, de trouver sur tout le territoire des coordinations, presque des agendas communs en termes de transformation. Et puis je rajoute un point qui est très simple sur les moyens dont disposent réellement les maires. On a vu pendant cette campagne municipale une sorte de verdissement des professions de foi, des tracts de l'ensemble des maires, en tentant de répondre à une demande sociale. C'est vrai qu'au plan local, c'est un enjeu qui est majeur. Et ça met, si vous voulez, les maires dans une situation extrêmement embarrassante parce que dans 6 ans, lorsqu'il s'agira de présenter le bilan, si les moyens ne sont pas donnés en termes d'autonomie et peut-être de nouvelles compétences, il ne s'agit pas de faire des municipalités, des laboratoires de transformation écologique. Parce que l'on voit bien parce que tout ne peut pas se jouer au plan local. On peut avoir des expérimentations, elles seront, on peut l'espérer, reprises, et elles pourront peut-être inspirer des actions nationales, mais c'est un temps très très long. Or, là, aujourd'hui, si vraiment la feuille de route du président Macron est de s'attaquer à cette question de la transition écologique, on ne peut pas tout faire reposer sur le local. Au contraire, il faut que le national puisse être, en fait, amplifie, soutienne, accompagne des initiatives locales, et pour cela, il va falloir donner davantage de compétences aux collectivités locales, dont elles sont aujourd'hui soit dépourvues au niveau de la municipalité, un petit peu plus pourvues au niveau de l'intercommunalité, mais sans réelle légitimité démocratique.
Stéphane Cadieux, qu'est-ce qui peut se mettre en place réellement à cette échelle municipale pour commencer avant un soutien massif au niveau national, mais de ces petites et grandes promesses faites lors des municipales, et je pense encore une fois à cette révolution climatique promise par différentes nouvelles équipes municipales, qu'est-ce qui peut très concrètement et techniquement se mettre en place à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité?
Alors, ils peuvent se mettre en place beaucoup d'actions publiques, de politiques publiques, de projets. Mais juste avant, je voudrais évoquer qu'il y a une forme là aussi de contradiction apparente. C'est-à-dire que lors des élections, les élus locaux, enfin les candidats aux élections municipales, ont aujourd'hui des projets. Ils revendiquent des projets d'action publique particulièrement détaillés, particulièrement fournis, très très bien pensés, etc. Et en même temps, quand on regarde au niveau local, les travaux montrent bien que l'action publique locale n'a peut-être jamais été aussi incertaine. Et c'est une forme de contradiction, parce que avec la décentralisation, on pourrait s'attendre qu'il y ait de plus en plus de responsabilités aux élus locaux, certes, mais l'action publique, aujourd'hui, elle ne se fait pas tout seule. L'action publique, elle se fait avec d'autres acteurs, ça peut être des acteurs privés, des groupes de pression, etc., puis avec d'autres institutions. C'est-à-dire qu'une municipalité, elle ne peut pas être envisagée toute seule. Elle agit avec l'intercommunalité, mais elle agit bien souvent aussi avec les autres échelons, que sont les départements, les régions, mais également l'État, et aussi, en matière écologique, l'Europe. Et c'est pour cela qu'on touche là une forme de contradiction auxquelles sont confrontés les élus locaux. C'est qu'ils doivent, face à leurs électeurs, afficher une forme de volontarisme. Et en même temps, l'action publique est désormais de plus en plus contrainte. Et on le voit en matière environnementale, c'est que quand vous menez des politiques sur la mobilité, eh bien, vous êtes bien souvent dépendant de négociations avec les régions qui ont des leviers, des marges de manœuvre, par exemple, sur le transport ferroviaire, mais aussi avec l'Union européenne, mais aussi avec l'État. Bref, toutes ces négociations sont des limites au volontarisme affiché par les élus locaux en campagne municipale.
Un système de décision multiniveau, donc, Martial Foucault.
Oui, et d'ailleurs, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure sur cette imbrication ou cette coordination entre l'action nationale et l'action locale, au fond, le contenu des discussions qui sont déjà engagées, de ce qu'on appelle dans le jargon ce projet de loi 3D pour déconcentration, décentralisation, différenciation, je trouve que c'est un débat qui va être très important. Et on verra comment Jean Castex sera en mesure d'avoir l'assentiment de l'ensemble des associations d'élus, élus municipaux, élus intercommunaux, départementaux et régions. Pourquoi ? Parce que si... Je vais prendre juste 20 secondes pour expliquer un petit peu le paradoxe. On est dans un pays très centralisateur en France. Mais des lois de décentralisation depuis le début des années 80 ont été engagées pour donner un peu plus de pouvoir, d'autonomie fiscale, mais très peu, et d'autonomie en termes de compétences aux communes. Aujourd'hui, le reproche qui est adressé à ce gouvernement, c'est qu'au fond, il y a une centralisation dans la décentralisation. Mais ça pose un problème politique très intéressant, parce que la décentralisation, c'est rapprocher l'expression d'une demande sociale des citoyens auprès d'élus qui sont en mesure d'y répondre par des politiques publiques locales. On considérera que les élus sont mieux à même d'observer et de comprendre ce que souhaitent les citoyens. Bien sûr, il y a le vote pour cela, mais c'est pas suffisant. Et d'un autre côté, la centralisation, on considère que on veut, dans un pays comme la France, assurer l'égalité territoriale, au principe d'un principe républicain. Donc aujourd'hui, si on s'engage dans la décentralisation, est-on prêt ? Est-ce qu'il n'y aura pas une gêne, puisque ce Premier ministre s'est présenté comme un gaulliste social attaché à la République ? Est-ce qu'il n'y aura pas, au fond, une contradiction à vouloir aller très loin dans la décentralisation, qui, de mon point de vue, veut dire rompre avec le principe d'égalité territoriale ? Et ça, pour moi, c'est le point fondamental. Est-ce qu'on acceptera que, dans un département du nord de la France, il y ait des compétences différentes, plus grandes, que, par exemple, en matière scolaire, école primaire, plutôt que dans le sud-ouest de la France ? Et si véritablement cette mue institutionnelle et presque en termes de culture politique est accomplie, est achevée, alors oui, on pourra parler de décentralisation. Sinon, je crains que ce soit comme les grandes vagues de décentralisation depuis 40 ans, on soit toujours sur un contrôle très très fort du centre.
Et avant d'envisager une véritable décentralisation, Stéphane Cadieux, vous posiez la question de savoir avec qui aujourd'hui gouvernait une équipe municipale qui n'est pas seule. Aujourd'hui, alors, si on reprend la ville de Lyon où vous êtes actuellement, qui... aujourd'hui, la nouvelle municipalité promet entre autres de faire de Lyon la ville des enfants, l'objectif qui revient régulièrement de 100% de bio et de 50% de produits locaux dans les cantines scolaires, etc. Mais au-delà, quand une municipalité promet par exemple de contrecarrer la densification immobilière, de revoir la commande publique dans un sens plus durable, à qui et à quoi se heurte-t-elle? Quels sont les groupes de pression dont vous parlez tout à l'heure? Sont-ils uniquement privés? Et à l'inverse, comment vont-ils travailler avec les associations de défense de l'environnement qui vont sans doute avoir une place plus grande? Tout ça, on peut le mettre dans une sorte de case, groupe de pression avec des niveaux différents.
Effectivement, les élus locaux ne décident pas seuls, quand bien même bénéficieraient-ils aujourd'hui de leviers de pouvoir extrêmement importants. Ils ne sont pas isolés dans leur bureau et quand ils mènent une politique publique, ils sont bien obligés de tenir compte de l'action de groupes mobilisés. Vous évoquiez par exemple le cas des écoles. Ben, quand vous faites l'un des grands projets de la mairie, la nouvelle équipe municipale lyonnaise étant de débitumer les cours d'école sur Lyon, eh bien on peut imaginer que cette politique va nécessiter des négociations extrêmes, va faire l'objet de négociations extrêmement lourdes avec des associations de parents d'élèves, mais aussi avec les syndicats enseignants, notamment, mais aussi des associations qui luttent sur les questions sanitaires. Bref, les élus locaux sont obligés de tenir compte, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas toujours l'expertise suffisante, c'est-à-dire les connaissances techniques pour pouvoir mener les politiques publiques. Ils ont besoin également de s'appuyer sur des relais associatifs qui sont particulièrement prégnants dans les collectivités territoriales. Mais parmi ces groupes de pression, il y en a d'autres aussi qui jouent un rôle extrêmement important. Ce sont des groupes qui représentent des intérêts plutôt privés, on va dire. Et vous avez par exemple, alors qui ne sont pas nécessairement organisés sous la forme de cabinets, de consultants ou de cabinets de lobbying comme on peut en trouver à Paris ou à Bruxelles, mais vous avez des grands groupes, par exemple de la distribution, des grands groupes de l'économie numérique, des grands promoteurs immobiliers, qui se sont dotés aujourd'hui de directions institutionnelles, qui sont en fait des directions qui assurent du lobbying, pour travailler auprès des élus locaux, pour leur vendre souvent clé en main des projets d'action publique, en faisant miroiter un certain nombre d'effets, de retombées positives pour leur territoire. Et donc les élus locaux, ils sont tenus d'agir avec tout cela à la fois, des associations qui représentent, on va dire, les intérêts des citoyens à la base, mais aussi des intérêts professionnalisés par des directions de lobbying dans les grandes entreprises avec lesquelles les collectivités territoriales travaillent au quotidien.
Alors pour l'instant, Emmanuel Macron a donné ce qu'on pourrait appeler un coup de pouce aux municipalités vertes et à d'autres en prononçant ce moratoire sur les projets de centres commerciaux en périphérie des villes, par exemple, Martial Foucault, mais avec le confinement, on peut aussi se dire que les arguments autour de l'emploi, du développement économique vont forcément à un moment peut-être rattraper les municipalités, qu'elles soient vertes ou pas, et peut-être qui vont, elles, devoir modérer un programme au départ strictement, basé sur l'écologie.
Oui, là c'est un véritable sujet. Vous parliez du livre « Maire au bord de la crise de nerfs ». Quand j'ai rédigé ce livre, je me suis intéressé à une dimension qui est, je crois, qui est passée peut-être un peu sous silence ou qui est abordée indirectement par cette question. On observe, vous vous souvenez de cette fameuse expression de la diagonale du vide, indiquant que on a une forme d'appauvrissement, de déclassement social de l'ensemble des communes qui se situeraient du grand sud-ouest jusqu'au grand nord-est.
Expression un peu malheureuse pour ceux qui sont qualifiés de vide.
Absolument, mais... absolument. Et c'est très intéressant parce que on peut observer que, effectivement, pour les élus locaux, parfois, la tentation est très très grande de répondre aux sirènes d'un certain nombre de promoteurs qui ont des promesses extrêmement attirantes en termes, par exemple, d'emploi pour ces là où sur cette diagonale où il y a un véritable déclassement. Bon, qu'est-ce qu'on observe? Moi, j'ai été frappé de voir que depuis 15 ans, c'est précisément sur cette grande diagonale que l'accroissement du nombre de mètres carrés de surface commerciale a le plus progressé en France. Et donc, on voit bien que l'argument de l'emploi, lorsque l'on est élu local et que l'on voit les entreprises disparaître une à une ou des reconversions qui n'ont pas pu se réaliser, eh bien, la tentation est très très grande de répondre positivement à ces demandes, alors que, dans le même temps, on dit les centres-villes de ces communes se vident et que, du coup, ça produit de la désocialisation, de la désociabilité. Bon, eh bien, il faut que les élus locaux puissent mettre en quelque sorte une barrière imperméable par rapport à des intérêts qui ont été exposés par Stéphane Cadieux et Et en même temps, se dire que l'emploi, il peut passer autrement que par l'installation de surfaces commerciales, parce que ça entraîne derrière des logiques de consommation et dont on a vu qu'elles pouvaient être responsables. En tout cas, elles ne peuvent pas être compatibles avec ce mouvement de transition écologique.
Alors, combien de temps peuvent tenir les barrières imperméables dont vous parlez, Martial Foucault? La mairie de Grenoble, qui était une pionnière il y a 6 ans de la municipalité écologique, fait aujourd'hui un peu figure de marraine de tous les nouveaux élus écologiste de France. Bonjour Elisa Martin.
Bonjour.
Vous êtes
merci
toujours.
De me donner la parole.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes toujours la première adjointe d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble. Éric Piolle qui n'a pas nié d'ailleurs lors de sa dernière campagne les difficultés qu'il y a à se coltiner la réalité, ce sont ses mots, et les frustrations de ne pas pouvoir tout réussir. Alors on peut évoquer très rapidement tout ce que la municipalité de Grenoble a réussi ou a pu mettre en œuvre de son programme, les autoroutes à vélo aménagées sur plusieurs artères de la ville, les 30 km/h, l'augmentation des rues piétonnes, avec d'ailleurs ses contreparties, l'augmentation des embouteillages, 60% des cantines sont passées en bio. Mais quels sont, c'est peut-être plus intéressant de vous entendre, sur les projets que vous avez eu pendant la première mandature et que vous n'avez pas réussi à réaliser, et pourquoi? Sur quel mur vous vous êtes heurté?
Malheureusement, on peut quand même constater, après l'ensemble des restrictions financières qui ont concerné les collectivités territoriales, mais plus particulièrement effectivement les communes.
Juste après les municipales de 2014.
Tout à fait. Et ensuite, cette affaire de contractualisation, ça c'est le gouvernement Macron qui nous contraint à ne pas augmenter au-delà de 2 et quelques % nos budgets, étant entendu que nous augmentons d'une façon systématique les fonctionnaires chaque année, et que, si vous voulez, ne serait-ce que de ce point de vue-là, cette toute petite marge dont on peut discuter, le caractère démocratique d'ailleurs, est immédiatement, si je puis dire, mangée par ces augmentations que je qualifierais d'automatique. Donc le premier mur, au fond, auquel on s'est confronté, c'est effectivement ces questions financières. Ainsi, et vous savez que c'est un vrai sujet, nous voulions développer d'une façon importante le service public d'accueil de la petite enfance, les crèches, comme on dit, d'une façon plus simple. Et bien évidemment, cela a été rendu impossible, ou presque, par cette restriction financière. Donc le premier mur auquel on se heurte, c'est effectivement la question financière. Le second pourrait être un certain nombre de cadres réglementaires, ainsi l'interpellation citoyenne que nous avions mis en place s'est heurtée au cadre réglementaire. Donc c'était un dispositif un peu complexe avec divers niveaux, mais qui permettait aux citoyens d'intervenir très directement dans la construction des politiques publiques et de se mêler, comme nous le voulons, des affaires publiques d'une manière générale. Cela a été retoqué
par le tribunal administratif, saisi par le préfet.
Voilà, saisi par le préfet, donc je pense que là, il y a quelque chose de très important, au motif que nous donnions, d'une certaine façon, trop de pouvoir aux citoyens et que le conseil municipal se pliait à un certain nombre d'exigences qui étaient portées par les Grenoblois. Donc, on voit bien que dans ce contexte-là, effectivement, les choses peuvent être rendues difficiles. Néanmoins, ce que je veux dire à la suite de tout ce que j'ai entendu, et qui est tout à fait pertinent, c'est quand même la question de la volonté, Et non, on n'est pas obligé de céder à tous les lobbies qui, effectivement, nous sollicitent en toute matière, des équipements technologiques, en matière de sécurité, de tranquillité, je pense à ça, des distributions, entre guillemets, un peu massives, de tablettes auprès des élèves. Tout ça, on a de toute façon une capacité, si on le veut et si on le décide, à dire non. Moi, je comprends bien, et vous avez bien sûr raison, qu'il y a un certain nombre de contraintes dans l'action publique qui, par ailleurs, ont de toute façon toujours existé. Mais pour autant, je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, à nous les élus, quelle que soit la strate sur laquelle on intervient, c'est notre volonté et par là même, parfois, notre capacité à dire non. Il y a quand même un atout dans toutes ces situations, c'est évidemment les citoyens. Et beaucoup de choses ont été dites sur Grenoble, les embouteillages, Chicago, que sais-je encore. Il n'empêche que même si j'ai entendu encore une fois précédemment ce qui s'est dit, c'est pas suffisant. La question du vote, c'est vrai, mais il n'empêche qu'en attendant, dans une quadrangulaire, faire 53%, indique assez fortement que le chemin que nous empruntons est aussi suivi par les Grenoblois. Donc, il y a la question de la volonté et il y a la question de la mobilisation citoyenne, de l'implication citoyenne, peu importe, qui joue aussi un effet de levier.
Alors, peut-être pour faire réagir d'abord nos invités à ce que vous venez de dire, vous restez avec nous, Elisa Martin, sur le fait que, voilà, tenir des promesses avec des budgets de plus en plus serrés, Grenoble a été, comme bien d'autres, soumise à des plans de baisse de dotation de l'État. Il a fallu d'ailleurs, pour éviter une mise sous tutelle, faire 14 millions d'euros d'économie à l'échelle de Grenoble et engager un plan d'austérité, ce qui n'était pas forcément ce qu'on attendait d'une mairie écolo rouge et citoyenne en même temps, mais tout ça, ça évidemment, on n'a pas les cordons de la bourse. Est-ce que aujourd'hui, un maire, Marcel Foucault, à qui l'on demande de plus en plus d'être un bon gestionnaire, peut aussi être un bâtisseur au sens appliqué à un vrai projet politique?
Je crois que la figure du maire bâtisseur est plutôt derrière nous au sens où on l'entendait, c'est-à-dire un maire qui engage des programmes de développement, d'aménagement très visibles et parfois même souvent disproportionnés par rapport aux besoins des communes. Et alors, je dirais qu'on n'est pas dans une transition où on abandonnerait la figure du maire bâtisseur pour simplement avoir des maires gestionnaires. Non, c'est une autre forme de maire qui s'installe actuellement. Et je crois que le scrutin de 2020 l'illustre parfaitement. C'est-à-dire des maires qui vont devoir accompagner des transformations. Et ces transformations, parfois, ça peut consister en de l'aménagement, mais d'autres fois, ça peut consister simplement, et là, Madame le rappelait, à Grenoble, c'est une bonne illustration, où on est effectivement dans des transformations, j'allais dire, plus douces, mais qui touchent un plus grand nombre de citoyens. Et je crois que ça, c'est l'élément fondamental pour comprendre si, effectivement, les transitions, je dis bien les transitions écologiques, peuvent être prises en charge au plan local. C'est précisément, et si cela doit réussir, c'est que, au fond, il y a presque une ambition citoyenne très très forte, parce que les individus, qu'ils soient électeurs ou non électeurs, et puisque ce scrutin a été entaché quand même par un niveau très élevé d'abstention, ils doivent pouvoir se rendre compte que, oui, l'action politique locale sur des enjeux très précis transforme leur quotidien. Et ça, je crois que c'est la responsabilité la plus forte qui pèse à la fois sur les épaules des élus locaux, petites et grandes communes. Et deuxièmement, cette figure du maire bâtisseur, pour moi, je crois qu'elle a conduit aussi à des situations totalement absurdes dans certaines circonstances. Et je dois dire que l'effort qui a été engagé par les collectivités locales depuis presque 10 ans maintenant en termes financiers et au fond n'était peut-être pas forcément une très bonne idée, puisque je crois que ce qui se produit en ce moment avec la crise sanitaire que nous vivons, les collectivités locales et surtout les départements, c'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, on est sur les communes, mais je dirais que les communes et les départements sont probablement les deux collectivités locales qui vont avoir le plus à souffrir des conséquences économiques et sociales d'une reprise. Et faire des transformations écologiques sans moyens financiers, ça me semble être totalement impossible. Ou alors, il faut qu'ils regorgent d'inventivité ou d'ingéniosité, dont ils sont certainement capables. Mais ça me paraît très difficile s'il n'y a pas cet effort, cet accompagnement et cet investissement. C'est de l'investissement. Les collectivités locales représentent près de 60% de l'investissement public en France.
On arrive à la fin de cette première partie. Elisa Martin, je ne pourrais pas vous faire réagir à nouveau, mais je vous remercie d'avoir été avec nous, donc première adjointe d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble. Et pour conclure, Stéphane Cadieu, est-ce que c'est depuis l'échelle locale qu'on peut renouveler le logiciel, c'est le mot qui a été employé hier par le nouveau Premier ministre, le logiciel politique dans son ensemble?
Alors, c'est peut-être prêter beaucoup de vertus à l'échelon local que de parvenir à transformer un logiciel. Et encore faudrait-il s'accorder sur ce qu'est un nouveau logiciel politique. Je suis pas sûr que c'est bien l'enjeu de la compétition politique de débattre de cela. Moi, je pense qu'il faut pas, comme bien souvent les pouvoirs en place sont tentés de le faire, d'accorder beaucoup d'importance, voilà, cette transformation qui se ferait au niveau local. Les collectivités territoriales ont un certain nombre de leviers. Elles peuvent agir à leur hauteur sur un certain nombre de secteurs d'action publique. Merci. Mais ne leur prêtons pas des pouvoirs magiques pour se substituer à un État qui serait, lui, défaillant dans sa capacité à incarner un véritable changement, voire une rupture.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous, Martial Foucault, en studio, directeur du CEVIPOF et co-auteur de Ville de gauche, Ville de droite aux presses de Sciences Po Paris il y a un peu plus d'un an, ainsi qu'à vous, Stéphane Cadieu, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et merci à Chantal Nouvelot au bureau de Radio France à Lyon de vous avoir accueilli en studio.
Ont-ils vu seulement que la brume se lève, alors qu'ils vont tous deux l'un à l'autre collés, l'un à l'autre accrochés, comme on s'accroche aux rêves dont on sait en dormant qu'il va nous échapper. La longue baie déserte, cernée par les falaises, s'offre à eux quelques points lumineux, isolés. Brille dans le lointain et font se diriger les amants cramponnés aux choses qui se taisent. Aux choses qui ne disent rien le long du cap Farvel, qui ne murmurent pas que les temps ont changé, ni les lumières au loin, ni la brume levée, ne diront que l'histoire a usé le soleil. Ont-ils vu seulement que la brume se lève? Ont-ils vu que la terre ne s'est pas arrêtée, l'un à l'autre accroché, enfoncé dans le rêve? Ou d'un même rocher, un jour ils ont plongé. Et si jamais Neptune, Éole ou bien Gaïa viennent à glisser de mots de ce qui s'est perdu, l'un à l'autre collé, ils n'écouteront pas, cramponnés pour toujours aux choses qui sont tues, aux choses qui ne disent rien le long du cap Farvel, qui ne murmurent pas que les temps ont changé, ni les lumières au loin, ni la brume levée, ne diront que l'histoire a usé le soleil. Ont-ils vu seulement que la brume se lève? Ont-ils vu que la terre ne s'est pas arrêtée, l'un à l'autre accroché, enfoncé dans le rêve? Ou d'un même rocher, un jour, ils ont plongé.
L'un à l'autre accroché, enfoncé dans le rêve. Cap Farvel, Dominique A sur France Culture.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
Vous écoutez France Culture, le premier magazine du week-end de l'été. L'OTAN est-elle en train de sombrer en Méditerranée? C'est le thème de cette deuxième partie jusqu'à 13h50. Depuis l'incident naval franco-turc au large des côtes libyennes, l'Alliance Atlantique ne s'est pas prononcée. Elle attend que des experts définissent précisément ce qu'il s'est passé le 10 juin dernier. Une frégate française dit avoir été volontairement ciblée par des bâtiments turcs en Méditerranée orientale. En langage militaire, ciblée, ça veut dire illuminée par un radar de conduite de tir. Attitude menaçante si elle était confirmée, la Turquie nie avoir jamais pointé la frégate. Alors quoi qu'il se soit réellement passé le 10 juin en Méditerranée orientale, la Turquie semble avoir profité du délitement de l'OTAN, des dissensions européennes pour avancer ses pions dans la région. En Libye, elle a nettement changé la donne, déjà en soutenant militairement le gouvernement en place contre les avancées du maréchal Haftar, lequel n'est pas seulement soutenu par l'Égypte ou les Émirats, mais aussi par la France. Que veut Recep Tayyip Erdogan en Libye? Libye. Que peut et que doit l'OTAN vis-à-vis de cet allié versatile? Bonjour Agnès Levallois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous copilotez l'Observatoire sur le monde arabo-musulman et du Sahel et vous êtes la vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Nous sommes aussi en ligne depuis Bruxelles avec Marc Pirini. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, chercheur invité à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, en Syrie et en Libye. Marc Pirini, suite à l'incident naval franco-turc, la France a décidé cette semaine de se retirer de la mission de surveillance maritime de l'OTAN en Méditerranée. Est-ce qu'il y a des précédents à ce genre d'incident? Est-ce que c'est la première fois qu'un pays de l'Alliance se retire d'une mission de sécurité?
Il faudrait remonter jusqu'au général de Gaulle dans les années 60. Pour arriver à quelque chose de encore plus drastique que ceci. Mais par contre, il y a, je dirais, de façon routinière, ces temps-ci, des blocages au sein du Conseil de l'OTAN, donc dans le fonctionnement normal, quotidien de l'OTAN, comme par exemple, depuis plusieurs semaines, et ça vient de se résoudre à peine maintenant, blocage par la Turquie des opérations de l'OTAN pour protéger les Pays-Baltes et la Pologne. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Sur l'enquête que vous avez mentionnée, je n'ai personnellement pas de grandes attentes parce que la tradition au sein de l'OTAN, c'est qu'on n'étale pas son linge sale dans le public. Et par ailleurs, la tradition turque, c'est qu'on ne reconnaît jamais une erreur, une faute. Mais ce qui importe ici, c'est de voir que un convoi, un navire qui soi-disant transportait des biens humanitaires sous le contrôle de trois navires turcs, de la marine turque, s'est opposé à trois contrôles, un grec, un italien et un français, dans le cadre d'une opération de l'OTAN, Sea Guardian. Si ça avait été vraiment humanitaire, on n'aurait pas vu vraiment de raison de s'opposer à cela. Ceci étant, Marc Pirini, le problème est beaucoup plus général.
Et notamment, la France reproche à l'OTAN d'être incapable de contrôler les cargos qui transportent des armes pour Tripoli. Pourquoi ils ne sont pas assez nombreux, les bateaux de l'OTAN? Parce qu'ils sont gênés dans leur mission par la flotte turque, par ailleurs membre de l'OTAN? Pourquoi cette mission de surveillance échoue jusque-là?
Alors, l'opération Sea Guardian, elle est très modeste. Il y a très peu de navires en jeu. L'opération parallèle et complémentaire de l'Union européenne, IRINI, a aussi très peu de moyens. Cela fait partie du manque d'appétit de l'Union européenne pour la question libyenne. On voit une réplique de ce qui s'est passé depuis des années en Syrie, et naturellement, comme la politique a horreur du vide, d'autres prennent la place. D'abord la Russie, et ensuite la Turquie. Vous avez mentionné les différents interlocuteurs, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La Russie s'installe en Méditerranée. Depuis 2015 en Syrie, avec une base aérienne qu'elle a créée à partir d'un aéroport civil, et maintenant avec un déploiement aérien dans plusieurs bases, dans le centre et l'est de la Libye, avec des avions de combat, des systèmes de défense aérienne, la milice Wagner, des djihadistes syriens, tout cela en plein milieu de la Méditerranée où la Russie n'avait jamais de présence militaire. Et la Turquie lui emboîte le pas selon la même méthode. C'est-à-dire, elle vient à la rescousse, elle est venue à la rescousse il y a quelques semaines du gouvernement de Tripoli, reconnu par les Nations Unies, alors qu'il était sur le point de succomber aux attaques de Haftar. C'est la réplique de ce que la Russie a fait en septembre 2015 pour sauver Assad au bord du précipice.
D'ailleurs, ce qui a permis, enfin en tout cas Erdogan dit qu'il ne s'est pas invité en Libye, mais qu'on l'y a invité, puisque c'est le gouvernement d'Al-Sarraj qui, en échange de son aide, alors je ne sais pas exactement quelles étaient les contreparties, mais des accords ont été signés en novembre dernier, alors que le maréchal Haftar était sur le point d'investir Tripoli, entre la Turquie donc et le gouvernement reconnu par la communauté internationale. C'est un petit peu ça qui brouille les pistes, Agnès Levallois. La Turquie dit aujourd'hui que son intervention est légitime puisque le gouvernement libyen qui l'épaule militairement est soutenu par les Nations Unies et que par ailleurs des embargos, des violations d'embargos sont aussi constatées dans l'autre camp, c'est-à-dire par les pays alliés de la France qui soutiennent le maréchal Haftar.
Oui, et c'est bien ça effectivement la complexité de la situation, c'est que la Turquie dit clairement qu'elle vient à l'appel du gouvernement, donc reconnu internationalement parlant, et ça je pense que c'est important de resituer pour nos auditeurs la situation où on a d'un côté le gouvernement de de Sarraj, qui est donc reconnu par la communauté internationale. Et en face, on a le général Haftar, qui lui a décidé qu'il était beaucoup plus apte que Sarraj à diriger la Libye. Et lui est soutenu donc par la Russie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et de façon non officielle par la France, puisque officiellement la France quand même reconnaît le gouvernement qui lui-même est appuyé par la communauté internationale. Donc on voit bien qu'on a une situation extrêmement ambiguë sur ce plan-là, et ce qui met la France dans cet incident que vous avez relaté dans une position quand même assez inconfortable, puisqu'on reproche effectivement à la France d'avoir un jeu très ambivalent, pour ne pas dire ambigu, qui est officiellement reconnaître le gouvernement de Sarraj, mais officieusement quand même appuyer Haftar, puisque peut-être à préciser, le général Haftar qui était en exil aux États-Unis pendant des années, qui est rentré après la chute de Tripoli, est appuyé donc aujourd'hui par les forces qu'on a évoquées au nom de la lutte contre l'islamisme et contre les terroristes. Donc il faut bien avoir ça en tête, et ce qui explique pourquoi les Émirats Arabes Unis et l'Égypte et la Russie soutiennent à ce point le général Haftar, si maintenant même ils s'en mordent les doigts pour certains d'entre eux, puisqu'ils se rendent compte que finalement le général Haftar est complètement enfermé dans sa volonté de prendre Tripoli, qu'il n'écoute rien, qu'il n'écoute aucun conseil, et que finalement ça a provoqué une réaction extrêmement qui s'est beaucoup durcie et qui a permis l'engagement de la Turquie auprès du gouvernement de Sarraj, et qu'aujourd'hui, du coup, la situation est complètement bloquée, ou en tous les cas, elle fait complètement le jeu de la Turquie, qui a décidé de mettre vraiment des moyens importants pour soutenir ce gouvernement et mettre dans les plus grandes difficultés le général Haftar, au point que certains se disent maintenant qu'il faudrait peut-être lâcher Haftar pour permettre un dénouement de la situation, mais sans tout perdre, puisque les Émirats Arabes Unis ou l'Égypte ou la Russie quand même ne veulent pas de ce gouvernement de Sarraj, et donc comment trouver un remplaçant à Haftar pour quand même ne pas laisser le champ complètement libre à Sarraj.
Alors la France, donc avec qui joue ce jeu trouble en Libye, dont on ne sait pas tellement quels sont, clairement et officiellement, les intérêts en Libye, est-ce que ce n'est pas dans son intérêt aujourd'hui d'en faire une crise méditerranéenne, de se porter garante de la sécurité européenne, d'en appeler au soutien des autres pays de l'Union européenne et à une position claire de l'OTAN pour servir peut-être des intérêts strictement français, ou pas, Marc Pierini?
Alors, en effet, il y a un intérêt pour la Turquie, dans le contexte politique intérieur actuel, à créer de multiples difficultés, et c'est ce qu'elle fait. Comme vous le savez, la situation économique est catastrophique en Turquie. Le parti du président a perdu son monopole politique. Il a désormais des opposants du Parti social-démocrate CHP, mais aussi des dissidents de l'AKP initiale. Donc, comme toujours dans ces circonstances-là, est enveloppé dans un discours nationaliste qui, bien sûr, est nécessaire à cause de l'alliance entre l'AKP du président Erdogan et le Parti nationaliste MHP, on voit une projection de force. Alors, il y a des forages dans des zones contestées autour de Chypre. Il y a cet accord sur les frontières maritimes entre la Turquie et la Libye, qui est une bizarrerie extraordinaire et qui était la contrepartie de l'accord de sécurité qui permet l'intervention turque. Il y a des incidents aériens quasiment quotidiens avec la Grèce. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le déploiement, même s'ils ne sont pas encore opérationnels, de missiles balistiques russes au cœur de la force aérienne turque. Donc il y a un jeu extrêmement ambigu, une dissimulation des objectifs réels, une dualité de la politique qui s'explique par beaucoup de raisons intérieures, et puis l'affinité avec Sarraj et son gouvernement dominé par les frères musulmans. Tout ça se comprend très bien, mais au final, ce que vous avez, c'est un double mouvement en Libye, dans cet énorme carré de sable et de pétrole face à l'Europe. Vous avez un déploiement turc à l'ouest, un déploiement russe à l'est. Ils ne vont pas s'affronter, naturellement, mais ils importent des djihadistes de la province d'Idlib en Syrie, ils importent des armes massivement, et dans tout cela, le jeu américain est très modeste, il existe, mais il est très modeste, et le jeu européen est plus que discret.
Agnès Levallois, quand la France parle d'extension de l'Empire ottoman à l'ouest de la Méditerranée, est-ce qu'il y a aussi une part de communication alarmiste ou voilà, comment vous mesurez, comment vous évaluez cette ça a été dit texto, l'Empire ottoman, l'extension de l'Empire ottoman à l'ouest de la Méditerranée.
Ça a une réponse aux déclarations de Erdogan qui effectivement dit clairement que la Turquie, en s'investissant en Libye, vient aider ses frères anatoliens. Il y a vraiment une volonté.
C'est vrai qu'il parle d'anatoliens, mais est-ce qu'il parle d'Empire ottoman?
Non, mais on sait très bien qu'il est dans une logique aussi. Aussi de pas de reconstitution de l'Empire ottoman, mais en tous les cas de retrouver une puissance sur l'ensemble de cette région, qui était une région effectivement qui était celle de l'Empire ottoman. Donc on voit bien que Erdogan aussi, pour se détourner, comme vient de le dire Marc Pirini, des difficultés intérieures, a besoin de montrer qu'il a une capacité de projection, et c'est aussi un moyen, me semble-t-il, pour la Turquie de faire oublier que la politique à l'égard de la Syrie quand même ne va pas tellement dans le sens de ses intérêts. Et que ce qui reste aujourd'hui de la poche, la fameuse poche de Idlib dont on parle beaucoup, pour laquelle la Turquie a un intérêt puisqu'elle elle est présente dans cette région avec toujours l'idée de lutter contre l'implantation des Kurdes ou la présence des Kurdes, puisque l'ennemi numéro un de la Turquie ce sont toujours les Kurdes. Et donc il y a une volonté aussi de la Turquie de montrer que si les résultats de sa politique en Syrie ne sont pas quand même tout à fait satisfaisants, parce que ça ne fonctionne pas comme la Turquie aimerait que ça fonctionne, de pouvoir remporter des pions, si je puis dire, sur le territoire libyen, comme elle le fait actuellement, c'est très important pour elle. Et ça lui permet effectivement d'être un acteur important sur l'ensemble de cette région. Et ce qui est très significatif, c'est de voir que ce sont aujourd'hui le jeu des puissances régionales que l'on voit à l'œuvre en Syrie, en Libye. Ce sont vraiment les puissances régionales qui sont très actives sur le terrain. Alors, est-ce qu'on met la Russie dans les puissances régionales? Mais presque, dans la mesure où la Russie n'est quand même pas très loin de ces différents terrains. Et que, là encore, sur le terrain libyen, qu'est-ce que l'on voit? On voit la Russie et la Turquie qui sont face à face, puisque dans ces deux pays, elles ne soutiennent pas le même camp. Elles sont même dans des camps radicalement opposés.
La Turquie
et en même
son
temps,
propre jeu.
Chacun essaye de faire en sorte de ne pas se trouver en confrontation avec l'autre, parce que ils savent très bien, la Turquie sait très bien qu'elle n'a aucun intérêt à rentrer en confrontation avec la Russie, mais ils arrivent finalement à trouver des points de pas d'accord, le terme est beaucoup trop fort, mais de faire en sorte de ménager l'autre, mais pour être les maîtres sur le terrain, au détriment de l'Europe, ça c'est une évidence, et avec effectivement Washington qui est quand même pas très présent, qui regarde tout ça de très très loin, et c'est vrai qu'il n'est pas concerné de la même façon que nous pouvons l'être nous, Européens, puisque la question libyenne, c'est aussi la question des migrations, ne l'oublions pas. Et c'est vrai que la Turquie soit aujourd'hui présente comme elle l'est en Libye, ça fait craindre aussi que la Turquie, qui joue déjà un rôle majeur dans le contrôle des migrations en provenance de Syrie à destination de l'Europe, ne joue aussi ce rôle de ces migrations qui passent par la Libye pour venir en Europe. Et ça, la crainte d'une partie des Européens et des pays de l'Europe du Sud, c'est de se retrouver encore une fois avec ce moyen de pression qu'utilise en permanence Erdogan vis-à-vis de l'Europe sur la question des migrations, en sachant que c'est un épouvantail évidemment qui fait très peur aux pays européens.
On entend bien l'ambiguïté dans vos interventions, Agnès Levallois, Marc Pirini, de la position turque, des positions turques et russes sur différents dossiers de cette région méditerranéenne. On entend donc la Turquie joue face, dans le camp d'en face de celui de la Russie en Libye. Par ailleurs, elle a acheté, vous le rappeliez tout à l'heure, Marc Pirini, ça a été le début d'ailleurs d'un moment de défiance de la France et de la Turquie, a acheté un système de défense antimissile à la Russie, c'est un système qu'elle voudrait opérationnel cette année, mais qu'elle a suspendu pour l'instant, parce que mettre en place ces missiles, ce serait se soumettre aux sanctions américaines, et pour l'instant, le gouvernement d'Erdogan ne peut pas se permettre de baisse de recettes. Quand la Turquie se rapproche ainsi de la Russie en lui achetant des systèmes de défense antimissile, est-ce que c'est pour chercher une alternative à l'OTAN? Réellement, est-ce qu'elle se sent à l'étroit aujourd'hui au sein de l'OTAN? Est-ce qu'elle veut constituer une véritable puissance militaire à elle seule ou avec la Russie pas trop loin?
Je dirais que c'est le discours de la puissance autonome, c'est-à-dire si vous écoutez, si vous décryptez les discours d'Erdogan, où il y a effectivement beaucoup de références au passé, à 1920, le traité de Sèvres, etc. Il parle des grandes batailles, de la reconquête, etc. Et les théoriciens qui sont à l'œuvre à Ankara ou à Istanbul vous disent il n'y a plus de raison pour la Turquie, qui est désormais une puissance régionale qui renforce ses armements, et il y a des programmes massifs qui sont en cours, on peut y revenir, il n'y a plus de raison d'être contraint par un camp ou par l'autre. Et les États-Unis ne nous ont pas offert de missiles, en tout cas pas avec des transferts de technologie, le consortium franco-italien non plus, donc on a pris des Russes. Les Russes, au passage, n'ont rien promis du tout comme transfert de technologie. Mais c'est une politique délibérée qui vise à montrer que la Turquie n'est pas prisonnière d'une alliance. Or, l'OTAN, bien entendu, c'est une alliance défensive, à l'origine contre l'Union soviétique, désormais contre la Russie, et ce positionnement turc d'avoir un pied dedans, un pied dehors, ou d'être dedans à temps partiel, c'est-à-dire quand ça arrange les objectifs d'Ankara, évidemment, ça ne fonctionne plus. Et c'est bien ça l'objection de la France aujourd'hui, l'objection de beaucoup d'autres, peut-être dans des termes un peu plus discrets. Mais au final, ce que vous avez, c'est un déploiement en Méditerranée, à la fois en Syrie et en Libye, de deux puissances militaires importantes, la Russie et la Turquie, et tout ça au détriment de l'Europe. Imaginez que si la Turquie demain a une base navale à Misrata et une base aérienne à Alwatiye, qui est dans tout à fait le nord-ouest de la Libye. Cette base aérienne serait à 25 km de la frontière tunisienne, à 8 km du gazoduc vers l'Italie, et la Turquie est là présente avec des missiles, des drones armés, l'année prochaine un drone de haute altitude beaucoup plus puissant, elle aura un porte-hélicoptère en service en Méditerranée ressemblant au Mistral français, et elle aura importé des milliers de djihadistes syriens, comme d'ailleurs la Russie le fait de l'autre côté, parce que ça les arrange bien de vider la poche d'Idlib de tous ces djihadistes sur lesquels ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc vous aurez, et tout ça dans un pays où les réseaux de trafiquants de migrants n'ont jamais cessé. À l'époque où je m'occupais de Libye, le colonel Kadhafi ouvrait ou fermait le robinet quand Bruxelles ou Rome l'ennuyaient trop. Et du jour au lendemain, vous aviez 700 ou 1000 migrants qui débarquaient sur Lampedusa. Mais tout ça était parfaitement régulé par le pouvoir. La même chose se produira selon que le pouvoir à Tripoli est fort, pas fort, influencé ou pas. Donc, il y a cela, il y a les terroristes, les djihadistes syriens qui seront là, et si un accord de paix intervient, un cessez-le-feu, ben, ces gens ils feront ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire créer le trouble. Ce sera peut-être pas en Libye, ce sera peut-être en Tunisie, en Algérie, au Sahel. Mais il y aura là un nouveau foyer qui n'existe pas aujourd'hui.
Agnès Levallois, on parle aussi, la France reproche à la Turquie, comme d'autres pays européens, ses explorations gazières en Méditerranée orientale, les forages gaziers dans les eaux territoriales de Chypre notamment. Comment la Turquie pourrait, seule et impunément, redécouper des zones économiques maritimes? C'est vraiment une crainte qui existe?
C'est sûr que la Turquie a vraiment besoin de cette ressource gazière, puisqu'elle en a besoin pour son économie, pour se développer. Et donc, on voit bien que dans la stratégie turque aujourd'hui à l'égard de la Libye et de tous ces forages qui sont prévus en Méditerranée orientale, la question gazière est absolument essentielle pour le devenir économique de la Turquie. D'autant plus, comme ça a été dit tout à l'heure, que la Turquie aujourd'hui est dans une situation économique qui n'est plus aussi florissante que ce qu'elle a pu connaître il y a des années. Et que donc là, c'est un enjeu majeur économique pour la Turquie. Donc la Turquie, elle a plusieurs intérêts dans toutes ces opérations telles qu'elle les mène actuellement. Il y a un intérêt politique pour Erdogan de se refaire, si je puis dire, et de montrer qu'il est vraiment un acteur régional de première importance. Sur le plan militaire, effectivement, avec une industrie de défense qui se développe dans des proportions considérables et donc qui peut montrer qu'elle a du matériel de très niveau pour pouvoir aussi l'exporter. Et d'un point de vue économique, avec la question de ses forages en Méditerranée orientale. Donc, pour la Turquie, il y a vraiment différents intérêts à être présente sur ce terrain libyen. Et tout ça face à une Europe qui est absolument incapable de pouvoir définir une politique commune. Alors, c'est pas simplement sur la Libye qu'on voit cela, mais ça fait ressortir de façon encore plus évidente le fait que cette Europe n'arrive absolument pas à mener et à mettre en place une politique qui lui permettrait de tenir tête aussi à ces appétits d'Erdogan, qui sont des appétits qui se développent tous les jours un peu plus.
L'OTAN non plus, pour l'instant, n'y peut pas grand-chose. Le traité traité de Washington ne permet pas aux membres de l'OTAN de se débarrasser, à l'OTAN, à l'Alliance, de se débarrasser d'un membre. L'ambassadeur de la Turquie en France lui assure que son pays ne veut pas quitter l'Alliance Atlantique. Il l'a dit avant-hier devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat.
Ceux qui questionnent, interpellent la présence de la Turquie dans l'OTAN, je les invite à imaginer deux secondes l'OTAN sans la Turquie. Bien sûr, de temps en temps, il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais monsieur le sénateur, nous avons gardé le flanc est et sud de l'OTAN pendant la guerre froide avec beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, imaginez l'OTAN sans la Turquie. Vous ne saurez pas traiter l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Méditerranée au sud, la Caucase, la Libye, l'Égypte. Tout cela, dans une large mesure, ça va échapper. Mettre en cause notre présence dans l'OTAN, moi, je crois que c'est très osé.
Voilà l'ambassadeur de la Turquie en France devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Marc Pierini. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité que la Turquie installe des bases militaires en Libye et de quelle manière ça pouvait rebattre les cartes pour la sécurité de l'Europe. En attendant, la Turquie a sur son sol des bases de l'OTAN utilisées comme relais, comme base logistique fondamentale d'ailleurs par les Occidentaux dans leur lutte contre l'État islamique. Elle a donc sur son territoire ce qui permet à l'OTAN d'agir dans la région. Donc pour l'instant, c'est inextricable. La Turquie reste dans l'OTAN et l'OTAN a besoin de la Turquie.
Absolument, c'est une ambiguïté totale à l'heure qu'il est. Vous avez raison de dire qu'il y a des bases de l'OTAN. Il y a la base d'Ingerlik où il y a 50 ogives nucléaires américaines prépositionnées. Il n'y a pas les avions pour les délivrer, mais il y a les ogives nucléaires. Il y a des ravitailleurs américains à Ingerlik. Il y a des AWACS, des avions de surveillance de l'OTAN sur la base de Konya. Donc, la Turquie, aujourd'hui, joue sur deux tableaux. Et on voit bien dans l'incident qui était votre point de départ, l'incident du 10 juin avec la frégate Gourmet, cette frégate, dans le cadre, opérant dans le cadre de l'opération Sea Guardian de l'OTAN, avait été ravitaillée un jour ou deux avant par un pétrolier ravitailleur de la marine turque. La même marine turque qui ensuite s'oppose de façon virulente à un contrôle d'un navire soi-disant humanitaire. Donc c'est absolument incompréhensible à première vue, mais revenons à la raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que la Turquie a des intérêts en Libye. Elle doit récupérer 15 milliards de dollars de contrats qu'elle a perdus en 2011. Il y a des frères musulmans au pouvoir, mais il y a surtout la politique intérieure. Vous avez une élection en juin 2023 que le président Erdogan ne peut pas se permettre de perdre. Et vous avez en octobre 2023 le centenaire de la République où le président Erdogan veut apparaître comme au moins l'égal d'Atatürk, avec des nuances, parce que bien sûr les nationalistes ne sont pas 100% sur la même ligne que l'AKP. Mais donc, le risque qu'on a devant nous, c'est que dans les petites trois années qui viennent, cette fuite en avant du pouvoir turc aboutisse à des incidents de plus en plus risqués. Pas simplement, comme on dit dans la marine, de froisser de l'atoll parce que deux bateaux, deux frégates se trouveraient trop proches l'une de l'autre, mais des incidents avec la Grèce, sur la mer, dans les airs, sur certaines îles, avec Chypre. La Turquie est massivement présente à Chypre Nord, elle y a des drones armés, et bien sûr avec la question des réfugiés qu'on a déjà évoquée. Pas oublier que fin février, la Turquie a mené une opération paramilitaire avec 1000 policiers d'élite et 5600 réfugiés contre la frontière terrestre avec la Grèce. C'est quand même inouï aussi.
Mais Agnès Levallois, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent le 13 juillet prochain pour débattre de la Turquie, envisager peut-être de nouvelles sanctions. Qu'est-ce qui est sur la table? Quelles sont les options possibles?
Il me semble que les options sont quand même très très limitées, puisqu'on voit bien que les pays européens n'ont pas du tout la même attitude, tous ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils ne voient pas la situation et l'évolution ou l'avancée de la Turquie de la même façon. Les pays d'Europe, du nord de l'Europe sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus soucieux de ce qui se passe dans leur, sur leur terrain à eux que ce qui se passe véritablement en Méditerranée. Donc on voit bien que de toute façon, même si cette réunion se tient, il y aura sûrement du déclaratoire, mais il ne faut pas s'attendre, me semble-t-il, de toute façon, à des mesures très fortes vis-à-vis de la Turquie, même s'il peut y avoir quelques propos qui seront exprimés. Et on voit bien que de toute façon, Erdogan, lui, joue de sa manière sur de velours face justement à des interlocuteurs qui sont pris finalement, qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur quelle position avoir et quels moyens mettre en œuvre pour éventuellement résister à cette avancée turque, en Libye en particulier.
Merci beaucoup Agnès Levallois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vice-présidente de l'IREMO. Merci à vous Marc Pierini depuis Bruxelles, chercheur invité à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union Européenne en Turquie, en Syrie et en Libye. Merci à vous. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, Fanny Richer et Lucas Lazo, réalisée par Luc-Jean Reynaud. À la technique, c'était Anthony Thomasson. On se retrouve demain dimanche, même heure. Peut-on avoir un vrai débat démocratique sur le nucléaire? Ce sera une des questions qu'on posera dans cette émission. Et puis on ira aussi à Hong Kong, où sont prononcées les premières inculpations au nom de la loi sur la sécurité appliquée par Pékin. Bon samedi et à demain.